René Bazin. Ma tante Giron. Chapitre 1. À vous, un lièvre ! L'animal venait, en effet, de débouler dans un champ de trèfle nouvellement fauché, sous les pieds du garde, qu'il avait manqué de ses deux coups de fusil. Il arrivait, haut sur pattes, les oreilles droites, au petit galop, sur les trois autres chasseurs qui battaient en ligne la pièce de trèfle. Il passa d'abord à 30 pas du baron Jacques. Le jeune homme tira sans viser. Pan, pan ! Le lièvre ne broncha pas. Seulement une fine poussière, comme en fait un moineau qui se poudre, s'éleva derrière lui. Ce fut le tour du comte Jules. Campé fièrement, le pied droit sur un sillon, le pied gauche sur un autre, il épaula son fusil neuf aux ferrures d'argent, ajusta longuement, puis rabattit l'arme en criant « Hors de portée !» Il faut dire qu'il manquait souvent et qu'il épargnait les coups pour épargner son amour-propre. À ce cri, le lièvre fit un bond, tourna à angle droit, se ramassa sur lui-même et, couchant ses oreilles, s'éloigna grand train dans le creux du sillon. Mon grand-père était le dernier sur la ligne des chasseurs, un peu en arrière du comte. Il eut un sourire narquois. Ses compagnons qui l'observaient le virent mettre la main à sa poche droite, en retirer sa tabatière, humer une petite prise, puis rentrer l'objet dans les profondeurs d'où il l'avait sorti. Alors, seulement alors, mon grand-père leva son fameux fusil en fer aigre. Il épaula vivement. Le chien s'abattit. On entendit un bruit de capsule, et une demi-seconde après, une détonation un peu plus forte. Au bout du champ, tout près de la haie, le lièvre culbutait et tombait raide mort entre deux touffes de trèfles rouges. « Voilà, jeunes gens, comment on tue un lièvre !» s'écria mon grand-père. Et quand ils se furent approchés, « Quelle distance, hein ? 100 pas au moins !»« Oh, 100 pas !» dit le baron en hochant la tête. « Vous le faites courir encore, votre lièvre !»« Il était loin !» soupira le comte. « Nous allons voir !» répliqua mon grand-père. Et il se mit à marcher sur le dos du sillon, dans la direction de la haie. Il faisait les pas fort petits, d'abord parce qu'il n'était pas grand, et aussi pour en compter davantage. « 79, 80, 81, 82 !» dit-il en arrivant près du lièvre. « Quelle distance !» Il ramassa la bête, examina la blessure, une demi-douzaine de grains de plomb dans la nuque, et se donna le plaisir de glisser lui-même la victime dans la carnassière du garde, déjà pleine, sur laquelle s'arrondissait, luisante et glorieusement usée par endroits, une peau de sanglier. Puis il atteignit un flacon d'huile, une brosse courte, un paquet de chiffons, et s'assit sur l'herbe. Le baron Jacques, que l'ardeur de la jeunesse et le dépit d'un coup manqué poussaient en avant, s'était déjà remis en route. Il se retourna en disant « Mais venez donc, il y a des perdres !» La phrase expira sur ses lèvres. Il venait d'apercevoir mon grand-père, assis sur l'herbe, qui plongeait dans le canon droit de son fusil, la baguette entourée d'un linge gras. Il eut un petit haussement d'épaule. « C'est juste, » murmura-t-il, « le fer aigre. En voilà un instrument. » Il continua de marcher vers le champ voisin. « Allez, allez, Jacques !» criait mon grand-père. « Je vous rejoindrai tout à l'heure. Vous savez que ce sont des gris. Prenez le vent !» Puis, sans se presser, il se remit à nettoyer son fusil en fer aigre. Le lecteur s'étonnera peut-être de cette expression. Il est cependant incontestable que mon grand-père avait un fusil en fer aigre. Je le conserve encore, ce vieux fusil ennobli par tant d'exploits, au bois originairement brun foncé, presque noir aujourd'hui, soumis qu'il a été depuis 20 ans sur les crochets d'une cheminée, au régime des jambons d'York. Il n'a rien de remarquable à l'œil. C'est une arme de petit calibre, à courte crosse sur laquelle est ébauchée une tête de sanglier, à canon très long et très mince, forgé par une main qui n'était pas célèbre et ne les a pas signés. À voir l'épaisseur de ces humbles tubes d'acier, qui est, à l'extrémité, celle d'une feuille de fort papier, un sportsman d'aujourd'hui sourirait de pitié. Pourtant, ces deux mauvais canons, pendant 60 ans, ont supporté l'effort de la poudre, la brume des marais, les éclaboussures de rosée des champs de choux et les ardeurs des grands jours chauds. Supérieurs en cela au chalkboard à la mode qui éclate sous la pression d'une balle, à 80 pas, ils logeaient 10 grains de plomb dans une pomme, une grosse pomme, à 100 pas, ils abattaient un loup. Ils n'avaient qu'un défaut, celui de s'encrasser très vite. L'acier dont ils étaient forgés avait une écorce rugueuse, pesante, happant et retenant la fumée au passage, aigre en un mot. Défaut grave et gênant qui obligeait mon grand-père, du moins l'excellent homme le croyait-il, à passer un linge gras dans le canon de son fusil dès qu'il avait tiré et, tous les 20 coups, à laver les 2 canons à grande eau. Ce que de semblables opérations valurent à mon grand-père de reproches et d'exclamations de la part de ses compagnons de chasse, on le devine sans peine. Elles se renouvelaient fréquemment. Il y avait tant de gibier dans ce temps et dans ce pays-là. Le temps, déjà bien loin, c'était le 1er septembre 1828. Le pays, c'était le Craonnais. Cette région n'a jamais eu d'existence à part dans les divisions politiques de l'ancienne ou de la nouvelle France. Elle a pourtant son caractère original et nettement marqué. Elle est bien une petite province par la nature de son sol et de ses habitants. À voir la jonc qui pousse sur ses talus, la bruyère assez commune dans ses bois, ses pommiers et ses sarrasins en fleurs, on serait tenté de dire « c'est la Bretagne ». À voir ces hommes grands, robustes, au type songeur, on pourrait croire « c'est la Vendée ». Mais regardez ces prairies, houppesses, mêlées, de grands troupeaux de bœufs et d'oies, les chevaux d'une race trapue et robuste, les bandes de porcs errant à la glandée par les chemins, cette terre forte que la charrue soulève en mottes violettes, où nulle part le rocher n'affleure. Regardez les chênes que cette terre nourrit. Vous n'en verrez ailleurs ni tant ni de si beau. Ils entourent les champs d'une couronne sombre, leur pointe est droite, car la mer est loin, et les grands coups de vent n'atteignent point là leur frondaison puissante, car le sol est profond à leurs pieds. Si vous montez sur les rares collines qui se croisent çà et là dans la campagne, comme les nervures de cette feuille verte, et forment les bassins de ruisseaux charmants et sans nom, vous n'apercevrez jusqu'à l'horizon que les cimes de chênes, au milieu desquelles perce parfois un clocher blanc, un peuplier, ou le faîte d'un alisier empourpré par l'automne. Non, ce n'est plus la Bretagne, ce n'est pas encore la Vendée, c'est le Craonnais. La grande propriété y domine. Les fermes, généralement étendues, sont louées depuis des générations par les mêmes familles de fermiers aux mêmes familles de propriétaires. Autour des villages, on trouve aussi quelques closeries où vivent des journaliers, d'anciens soldats ou piqueurs retraités, arrosant les laitues d'une main qui porta le mousquet ou la trompe de chasse. Presque toutes ces vieilles familles, on pourrait dire ces vieilles maisons, de laboureurs sont aisées, plusieurs même très riches. Chez toutes, on rencontre une foi vive et éclairée, l'amour du sol, le culte des traditions, le tout bien abrité par un bon sens résistant à l'erreur et par le sentiment de l'antique honnêteté de la race. Le paysan craonnais, dont le nom honorifique est métayer, lors même qu'il est fermier, grand, large d'épaule et lent d'allure, n'a pas la tête légère ni l'humeur querelleuse du breton. Moins sombre que le vendéen, il est comme lui indépendant et défiant. Il reconnaît et respecte 3 autorités, son curé, son père et son maître. Hors de là, il ne s'en laisse guère imposer. Un uniforme brodé le fait rire. Sous la Révolution, il fut le premier levé et le plus irrégulier des soldats de la chouannerie. Pour le commander, il lui fallait des chefs de son choix et toujours de chez lui. Sitôt le coup de main achevé, il rentrait à la ferme ou se cachait dans un genêt voisin et laissait pour 2 mois, 3 mois, 6 mois dormir sa carabine. Elle dort maintenant pour toujours, enfumée, sous le manteau des cheminées où la légende des grandes guerres s'éveille encore parfois les soirs d'hiver, et c'est tout ce qui survit de ce temps lointain, car les derniers témoins sont morts, et le costume qu'ils portaient, le pantalon et la veste courte en drap bleu et le large feutre à galons de velours, a peu disparu. Quel plaisir charmant était, il y a 60 ans, la chasse à tir dans ce pays-là. On y braconnait, certes, autant qu'aujourd'hui, on y chassait guère moins, et les gardes, comme aujourd'hui, gardaient peu de choses. Cependant, le gibier abondait. Il avait de si belles retraites, les blés noirs, les trèfles, les choux, d'une variété de hautes futaies, les haies énormes et fournies, et surtout les champs de genêt. Où sont-ils à présent ces genêts toujours verts qui jetaient dans la campagne, pendant 8 mois sur 12, l'étincelle joyeuse et le parfum de leurs fleurs d'or? C'est un humble arbuste que le genêt, mais en regardant bien, quelle que soit sa saison, vous trouverez presque sûrement sur la tige, soit en haut, soit en bas, un bouton qui va s'ouvrir, une petite nacelle prête à tendre au vent sa voile jaune. Et si le genêt se repose, regardez à côté. C'est que la bruyère est rose, c'est que l'ajonc est fleuri. Car le printemps ne quitte pas la lande, il en fait le tour d'un bout de l'année à l'autre. Et les paysans, qui le savent, avaient coutume de dire « À toutes les fêtes de Vierge, le jaguelier fleurit. » Hélas, j'ai vu la charrue coucher à terre les derniers genêts du Craonnais, il y a quelques années, dans un petit champ qui s'appelle l'Écobu. Je ne passe jamais là sans m'en souvenir tristement. Avec quel battement de cœur un vrai chasseur attaquait ses remises sans pareil. Il s'avançait doucement, la main sur la détente de son fusil, tandis que le chien, tournant les touffes, suivait, le nez sur la mousse, une trace encore chaude. Lièvre, perdreau, bécasse, râle, il y avait toujours quelques gibiers de choix dans le genêt. Les perdreaux partaient un à un, compagnons gris, compagnons rouges, rasant la fine pointe des balais verts. Quels jolis coups alors! Beaucoup de chasseurs tiraient bien, ils tiraient si souvent. Et puis, le fusil à pierre les avait mis à si bonne école. Ô jeunes gens d'aujourd'hui, qui vous croyez adroits pour avoir atteint quelques perdreaux avec vos mitrailleuses à percussion centrale, pensez à cet âge héroïque du fusil à pierre. On pouvait être fier alors d'un coup heureux. L'opération n'était pas simple. On pressait la gâchette. Le silex frappait l'acier, l'étincelle jaillissait et, quelquefois, par un heureux hasard, rencontrait la poudre du bassinet. Alors, si la poudre n'était pas mouillée par une goutte de pluie ou de rosée, si le choc d'une branche ne l'avait pas précipitée à terre, elle prenait feu et, presque toujours, avec le temps, enflammait la charge. Pendant la durée variable de cette succession d'incendies, il fallait suivre de l'œil la bête qui courait ou qui volait, sans quoi le plomb ne traversait que l'air. On se levait à 5 heures, à 5h30, on partait. Le rendez-vous était souvent à 2 ou 3 lieues. On les faisait à pied. Sans autre repos qu'une heure, pour dîner d'un morceau de pain et d'un peu de beurre qu'on partageait avec son chien, et le soir, on revenait encore à pied. Le régime était rude, mais que de pièces abattues. Les carnassières crevaient sous le fardeau. Par toutes les mailles, le poil et la plume faisaient saillie. Fourrure précieuse et douce aux yeux du chasseur. Trente perdrix n'étonnaient point en un jour d'ouverture. Je vous prends à témoin, Fanchette, vous qui avez plumé, flambé, fait rôtir ou mis au chou les perdrix que tuait mon grand-père, en ces temps légendaires, dans le craonnet giboyeux, avec son fusil en fer aigre. Quand il eut nettoyé son arme, mon grand-père songea à rejoindre ses compagnons. Guidé par leurs coups de feu, il les retrouva comme ils sortaient d'une grande pièce de terre en jachère, couverte de ramberges. Le baron Jacques avait tué un lapin et le comte Jules un ramier. Tous deux étaient contents. « Mes amis, dit mon grand-père, il est temps de nous rabattre sur le bourg. Il ne faut pas que ma sœur attende. » « Déjà partir ? » s'écria Jacques. Cette exclamation illumina d'un sourire la figure de mon grand-père. Il était fier de cet élève qui, à 5h30 du soir, en chasse depuis l'aube, ne demandait qu'à marcher encore. Il se pencha vers lui. « Écoutez, dit-il, nous pouvons revenir par la motte du four. Le détour n'est pas long. Il y a là certains marrouillés et dans ces marrouillés, certaines bandes de molletons. » Le baron glissa quelques grains de gros plomb dans son fusil et l'on revint en effet par les prés de la motte du four, coupés par endroits de petits marais. Mais les canards étaient au champ et les chiens ne levèrent rien dans les roseaux. Le soleil baissait rapidement dans un ciel très pur. Quand il passa derrière la ligne de peupliers qui bordait les prés, le feuillage de ces arbres changea de couleur. Léger, découpé, frissonnant, on eût dit la chevelure d'une gerbe d'avoine mûre. Plus bas, il y avait un rideau de chêne. L'astre s'abîma dans cette forêt verte. Quelques lueurs d'incendie traversèrent encore les branches, puis s'éteignirent. Dès qu'il eut disparu, une brume légère estompa les coins des prés. On entendit le cri plaintif des sourds. Les ramiers traversaient l'air à tire-d'aile, le poitrail doré par le couchant. Bientôt, Rosalie, qui guettait le retour des chasseurs par la fenêtre à barreaux de fer de la cuisine, les aperçut au détour du chemin. « Les voilà, Madame Giron » cria-t-elle. « Combien sont-ils ? » ? « 4, en comptant Baptiste. » « Trempe la soupe et mets un couvert de plus. » Mon grand-père, le baron, le comte et le garde entrèrent, en effet, dans la cuisine, unique vestibule des logis d'autrefois. Au même moment, ma tante Giron sortit de la salle voisine et vint au-devant d'eux. C'était une femme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, forte, avec un visage plein et frais, aux pommettes saillantes, aux yeux gris très fins et très fermes, s'animant tout au fond d'un reflet de tendresse quand il regardait mon grand-père. Un ensemble intrépide, actif et franc. « Ce n'est pas trop tôt rentré, » dit-elle d'un ton bourru, où l'on sentait plutôt l'habitude et le besoin de grogner qu'une conviction véritable. « Ne vous fâchez pas, ma sœur. Voyez, nous rapportons 18 perdreaux, 2 lièvres, 1 lapin et 1 pigeon. » « J'aimerais mieux un pigeon de moins et un peu d'exactitude de plus, mon frère. »« Ma seule pièce, » interrompit le comte. Ma tante Giron eut un sourire qui creusa 2 petits trous dans ses joues. « Vous dînez avec nous, monsieur Jules ?»« Oui, madame Giron. »« Ah, dame, je n'ai pas à vous offrir des dîners comme vous en faites dans vos châteaux, vous autres messieurs. C'est un dîner de campagne et qui a attendu. » « Allons, dépêchez-vous !» Et tandis que le garde, sifflant les chiens, allait les attacher dans la cour et que les 3 chasseurs suspendaient leurs fusils au râtelier de la cheminée, déposaient leurs carnassières et cherchaient à rendre un peu de tenue à leurs nœuds de cravate, ma tante Giron rentra dans la salle à manger qui attenait à la cuisine.